Bien, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Nous allons donc poursuivre vers l'achèvement notre étude des commandements de Dieu. Et comme il était prévu, je terminerai par le premier. Le premier du temps de Moïse, il est certain que le polythéisme était de rigueur un petit peu partout. Donc on commençait par insister sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu à adorer. Maintenant, le polythéisme n'existe plus guère. Donc, il est normal de réfléchir à la fin sur ce Dieu créateur dont la seule difficulté est que beaucoup le nient actuellement. Donc c'est un seul Dieu, tu adoreras, qui est un commandement formel, sans nuance. Finalement très exigeant, car adorer Dieu entraîne de ne pas faire tout ce qui vous passe par la tête. Sous une autre forme, ça a été le premier commandement de l'Éden, « Tu ne mangeras pas de ce fruit ». Et l'homme qui, mal conseillé, s'est dit « j'en mangerai quand même ». Donc qui a pris, c'est son indépendance vis-à-vis de Dieu, qui en quelque sorte a renié Dieu et l'a mis aux oubliettes. C'est la difficulté de nos jours et de toutes les formes de l'athéisme qui sont en train de régner. À y regarder de près, d'ailleurs, nier l'existence de Dieu est quelque chose qui ne tient pas debout. Cela suppose au moins deux hypothèses, pour le moins hasardeuses. Tout d'abord, l'éternité de la matière. Si la matière n'est pas créée, c'est qu'elle est éternelle. Or, les lois de la physique, connues maintenant bien sûr, sont formelles. Selon le principe de Carnot, l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Ce qui, en langage courant, veut dire la matière s'use. Il y a toujours, dans toute transformation, il y a déperdition de la matière utilisable. Le mouvement perpétuel est impossible. On en étudie plusieurs solutions avec des idées remarquables, mais jamais le mouvement perpétuel ne peut être réalisé, car il y a toujours quelque part une perte d'énergie qui fait en sorte que cela s'épuise. J'entends encore mon professeur de physique en mathélem commander l'énoncé d'un problème qui portait la mention « On supposera que les mouvements ont lieu sans frottement » et qui ajoutait « Mais c'est impossible. Sans frottement, on ne peut pas avoir de mouvement. On s'en aperçoit bien quand il y a du verglas. Quand il y a du verglas, le mouvement devient impossible parce qu'on ne sait pas sur quoi s'appuyer. » Donc l'entropie ne peut qu'augmenter. Alors si on veut nier Dieu, il faut bien sûr chercher ce que l'on appelle des puits d'entropie, des endroits où la nature se referait en quelque sorte une jeunesse et remettrait l'entropie à zéro alors qu'elle a atteint des quantités remarquables. Il y en a qui disent que ça se trouvait dans les trous noirs. Comme on ne sait pas ce qui se passe dans les trous noirs, la solution est assez bonne. Mais de toute façon, en admettant que ce processus de régénération existe, il y aura une certaine période. Les anciens Assyriens, si je ne m'abuse, l'évaluent à 25 000 ans. Ce qui voudrait dire que nous ne pouvons pas dire si nous sommes en 2010, en 27 010, en 52 010, et tous les 25 000 ans, nous serons condamnés à faire les mêmes bêtises de la même manière. C'est plutôt désespérant. C'est la fameuse histoire de l'éternel retour. Le deuxième point sur lequel les athées sont bien ennuyés, c'est l'éternité des lois de la nature. Car ces lois existent. La nature ne réagit pas n'importe comment. On les découvre peu après. Einstein a dit un jour, le plus étonnant est que cela est compréhensible. Les lois ont une certaine connaturalité avec l'esprit humain et elles sont compréhensibles. On arrive à le faire. L'univers n'évolue pas n'importe comment, il y a des lois permanentes. D'où viennent-elles? Parmi ces lois, entre autres, il y a celle de la vie, de l'étonnant pouvoir d'asservissement de la vie. Dans un sol et une atmosphère identiques, les mêmes molécules deviendront persil, cresson ou cerfeuil, suivant la personnalité de l'herbe qui les utilise, puis vache ou mouton, suivant l'animal qui les broute, homme ou chien, suivant celui qui les mange, mais enfin asticot avant le retour au point de départ. Toute cette qualité de la vie de changer des molécules avec des matières identiques, la majeure partie des molécules comporte carbone, hydrogène, oxygène, azote et puis quelques petites matières supplémentaires comme le phosphore ou l'azote en quantité très faible. Donc ces mêmes atomes ont composé les prêles, les dinosaures, les vaches et puis les tripes à la mode de Kant, tout ça c'est exactement les mêmes atomes mais que la vie a transformé de manière de la manière suivant des lois qui existent depuis toujours. Les évolutionnistes rigoureux disent que toute cette variété est due au hasard. C'est donc le hasard qui a composé les orchidées, les ailes des papillons, les poissons des coraux aux mille couleurs, la vigueur de l'ours, la carapace de l'écrevisse qui émerveillait Salvador Dali, la toile de l'araignée. J'ai vu un petit film sur mon ordinateur d'une araignée tissant sa toile, c'est quelque chose de phénoménal. Le chant du rossignol, diable, le hasard fait bien les choses. C'est vraiment un grand artiste. Le hasard mériterait peut-être qu'on lui rende un culte. Cela dit, il est certain que les arguments apologétiques sont souvent insuffisants pour convaincre, ne serait-ce que parce qu'ils sont marqués par l'époque et vieillissent mal. Et il y aura toujours, comme le dit le père Marie-Dominique Philippe, à qui je dois beaucoup de ses remarques, il y aura toujours assez de lumière pour ceux qui veulent croire et assez de ténèbres pour ceux qui ne le veulent pas. Car Dieu nous aime et veut qu'on l'aime, qu'on ne soit pas forcé de l'aimer, mais qu'on y consente petit à petit pour entrer et se blottir dans ses bras. Donc, on ne peut trouver Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si on faisait un dieu modo-géométrico, comme a pensé le faire Descartes, ce serait un dieu qui entrerait dans notre petite cervelle et ce serait à tous les coups un faux dieu. On peut trouver le fait de l'existence de Dieu dans le fait que nous sommes en puissance. Nous tendons vers des perceptions. Ces perceptions existent. Il y a la perception, évidemment, du bien, du savoir, la perfection, du travail. Mais nous ne les avons que imparfaitement, nous ne les avons que partiellement. Et tout porte à croire qu'au bout, il y a tout l'ensemble des perfections qui ne peuvent être que dans un être immuable et tout puissant. Et ensuite, nous dépendons radicalement du moteur immobile. Alors, nous changeons, et on s'en aperçoit bien en vieillissant, nous changeons ce que Aristote appelait que nous avons un mouvement. Nous changeons, nous grandissons, nous vieillissons, puis nous apprenons des choses, nous les oublions, nous faisons un tas de choses, donc il y a un changement. Or, ce qui est mu, ce qui n'est pas mu par lui-même, est mu par un autre. Ce n'est pas nous qui nous vieillissons, ce n'est pas nous qui nous grandissons, ce n'est pas notre volonté qui fait la digestion et tout cela, c'est donc autre chose. Ce qui est mu par quelqu'un, ce qui n'est pas mu par lui-même est mu par un autre. Mais finalement, on arrive en réfléchissant à la conception d'un moteur, celui qui nous fait mouvoir, lui-même immobile, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait l'évolution et qui lui-même est absolument immuable. C'est ce Dieu des philosophes, cet être des philosophes, ce moteur immobile que les traditions religieuses appellent Dieu. Car le terme de Dieu n'est pas un terme de philosophe, c'est un terme religieux. Et Aristote disait bien, c'est cet être immobile que les traditions religieuses appellent Dieu. Et cela, on arrive naturellement, les philosophes païens sont arrivés à la conception de ce moteur immobile et à la nécessité d'une adoration, puisque c'est en lui que recueille tout notre être. C'est à lui que nous devons d'exister, c'est à lui que nous devons donc d'aimer, de détester, c'est à lui que nous devons tout, et donc nous lui devons un culte, c'est tout à fait normal. Il est à noter d'ailleurs que ce Dieu est dans l'ordre de l'être et non pas dans l'existence. Ça, il y a aussi une distinction à faire entre l'être et l'existence. Toujours le père Philippe disait, l'existence, mon voisin d'avion, est très embêtant. Il est gros, il m'embête avec ses bagages, il sent un peu mauvais, son existence m'est vraiment pénible. Mais son être est merveilleux avec sa capacité d'aimer, de savoir. Son être est indépendant de l'existence, est merveilleux. Et Dieu, c'est la plénitude de l'être. Mais comme le fait de croire en Dieu implique un tas d'obligations, surtout dans l'ordre de l'efficacité, car c'est dans l'ordre d'efficacité que l'athéisme se manifeste le plus rudement. L'efficacité qui donne les catastrophes naturelles, bien sûr, mais aussi toutes les guerres, toutes les révolutions, tous les supplices, toutes les haines et tout cela. La société moderne, qui veut avoir une liberté complète, a résolu de nier Dieu. Un peu comme la bête de l'Apocalypse au chapitre 13, qui a sept têtes. Ces sept têtes sont claires, on peut leur donner des noms. Vous avez Nietzsche, la volonté créatrice. Si Dieu est créateur, je ne puis l'être, donc Dieu n'existe pas. Vous avez Darwin et l'évolutionnisme absolu. L'évolution ne saurait être limitée par un Dieu créateur. C'est là une valeur absolue. Freud est la primauté du moi, Dieu est aliénant. Sartre est la liberté, Sartre a sorti cette phrase épouvantable. Si Dieu existe, je ne suis pas libre, donc Dieu n'existe pas. Marx est la révolte, l'esclave doit prendre la place du maître, et le maître par excellence, c'est Dieu. Comte est le scientisme, seul existe ce que l'homme peut prouver civiquement. Arman est l'exaltation de la volonté, je suis responsable de mes actes, donc Dieu n'existe pas. Alors, toutes ces discussions théologiques amènent à la société actuelle, où effectivement tout est plein, tout est possible, on peut se permettre n'importe quoi, il n'y a plus d'autorité, c'est la volonté du peuple qui fait la loi, mais cette volonté du peuple peut être manipulée par un tas d'organismes comme les médias. Nous verrons le mois prochain à peu près ce que l'on peut tirer de cela.